Bonjour, un petit préambule avant l'épisode 137. Celui-ci a présenté quelques défis d'enregistrement. Donc, il y a des vides, il y a des blancs. Vous allez constater peut-être un peu de manque par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On a fait le mieux qu'on pouvait pour réussir à récupérer les bouts d'intervention qui étaient potables. On a dû retirer une bonne partie du contenant de ce qui n'était beaucoup moins potable. Donc, soyez indulgents. Merci. Bon. Bienvenue à la French Connection, épisode 137. Cette semaine, je suis avec Steve.
Bonjour à tous.
Patrick.
Salut tout le monde.
Et Vincent.
Yo!
Donc, commençons avec les Shameless Plug. 27 février au Québec Sec, le Chain of Fools, qui va être présenté par un ancien de traîneur d'organisation qui est super bon mathématicien par ailleurs. 10 mars, Sécurité d'information, conférence des affaires. 11-12 mars, Cloud and Cyber Security Expo à Londres. 26 mars, colloque de la cybersécurité à Lévis. 26 mars, le soir, il va y avoir enregistrement live au Québec Sec du podcast. Ensuite, du 16 au 26 avril, il va y avoir la semaine numérique. Parmi cette semaine-là, il va y avoir un événement de sécurité, le Secure, le 20 avril. Dépêchez-vous, les billets en pré-vente terminent le 9 mars, dans moins d'un mois. Et on va terminer avec ça sur les Shameless Plug. Commençons avec les nouvelles. Puis on va faire à la fois un récap de ce qui est une grande nouvelle qui nous a occupé l'été passé et finalement qui a encore des comebacks maintenant, où la dite personne qui a vendu et s'est malheureusement fait flouer puisque ces données qu'il revendait de Desjardins se mettent déclarées à 40 000 $ par personne à qui ces données-là étaient vendues.
Yes, puis en fait, c'est un sujet qu'on a apporté aussi durant l'été, je pense, dans les médias, moi, Steve et plusieurs autres, comme quoi que, oui, la personne qui a fait le vol a été un peu nono d'accepter 250 pièces chez Saint-Hubert, mais qu'en arrière de ça, il y avait de la vraie revente, puis que cette revente-là, puis là, c'est là qu'on commence à voir les nouvelles sortir, comme quoi que ça se passe depuis plusieurs années. Puis évidemment, là, c'est pas la première personne qui a volé des infos dans une banque puis qui les a revendues. Là, il y a plusieurs personnes qui recherchent plusieurs infos là-dessus. Desjardins dit que ça fait déjà au moins 3 ans que ce voleur-là exfiltrait de l'information. Ça, c'est pour ce cas-là uniquement. Beaucoup, beaucoup de sources, beaucoup de personnes à qui on parle qui nous confirment que ces vols-là, ça fait plus qu'une dizaine d'années. Là. Fait que je pense que c'est le temps qu'on se réveille, que tout le monde comprenne que c'est quelque chose de répandu et connu. Mais oui, il faut comprendre que, comme Nick vient de dire, c'est 40 000 $ à chaque personne vendue. Puis il y en a des courtiers au Québec, là, puis au Canada. Fait que imaginez 40 000 fois, peut-être des centaines et des centaines de fois à chaque année, pendant des dizaines d'années. Ça fait un bon budget, je pense.
Ouais, ça fait beaucoup de ça fait énormément de zéro. Puis en tant qu'à parler de ce temps qu'à faire sur ça, cette nouvelle-là à l'époque, Desjardins avait justement dit qu'il avait pris des mesures, dont le fait d'avoir coupé les clés USB et l'accès au courriel infonuagique personnel. Donc Hydro-Québec aurait repris cette approche-là également, mais plus récemment. Steve?
Juste avant, Nick, je voulais revenir sur Desjardins, parce que lorsqu'il était en commission avec les parlementaires à Québec le 21 novembre dernier, ben encore là, le président, M. Cormier, avait clairement dit que c'est une pratique qui avait cessé, que ça, pour lui, ça n'a jamais été croche de même. Puis là, vois-tu, on a encore une fois une preuve que soit que les gens ont caché beaucoup d'informations à ce président-là, soit que le président nous joue encore une fois à cacher l'information, la vérité, et nous prend pour du monde. Les deux de pique, là, excusez de dire ça, mais c'est la vérité. Fait que c'est là que ça va être intéressant parce que là, il est encore en poste, M. Cormier, pour son deuxième terme, élu par acclamation. Et il y a des choses qu'il va falloir qu'il explique là, que même avant son terme ou après son terme, il faut qu'il mette clairement sa stratégie sur table parce que ça continue. Puis Moi, je ne serais pas surpris qu'on en apprenne davantage, qu'il va y avoir d'autres façons de faire, que c'était de la mauvaise foi par certains individus à l'intérieur de l'organisation. Mais pour enchaîner avec la nouvelle, comme tu dis, chez Hydro-Québec, j'ai encore mal au derrière tellement que j'ai tombé fort de ma chaise quand j'ai lu ça, que Hydro-Québec avait encore des pratiques de manipuler des clés USB à l'intérieur de son réseau administratif et il permettait sur les portables. Bon, la majorité des entreprises, on l'a déjà vu, je pense tous et chacun autour de la table, que ça se fait encore comme pratique et c'est normal, les gens ont besoin d'échanger. Cependant, avec les technologies d'échange en info nuagique surtout, ben, la clé USB devient de moins en moins un facteur pour être capable de dire on échange ça, que ce soit aussi simple que de mettre ça sur un attachement de courrier électronique. Mais n'en demeure pas moins que ça, présentement, que ça soit une nouvelle directive en 2020 d'interdire les clés USB. Désolé, là, c'est vraiment quelque chose d'attardé.
Snowden, là, c'est en 2010. C'est pas si pire comme délai, non?
Je m'en allais vers ça, Pat, merci. Puis, bien avant ça, il y en a eu d'autres situations que des environnements opérationnels, il y a besoin que de restreindre les clés USB. Puis, moi, le premier à défendre, je veux dire, ça a été long. Ils ont ici qui mettent ça à off, là, à partir de 2009-2010, tu sais. Fait que là, on est dans 2020, puis ils viennent de voir la lumière, ou je sais pas trop. En tout cas, du moins, la seule affaire que je peux conclure, ils ont dû revoir les évaluations de menaces et de risques. Là, ils réalisent que le risque de la clé USB peut contaminer le système avec juste le fait d'un ransomware, ben, c'est peut-être ça qui était l'élément motivateur. Tant mieux, mais tabarnouche.
Ouais, mais il y a un point que j'aimerais amener là-dessus aussi, puis ça, c'était drôle parce que j'ai essayé d'apporter une discussion sur Facebook, puis personne n'a voulu participer, mais tu sais, les clés USB, oui, il y a le concept de Snowden. Mais tu as aussi tout ce qui est Stuxnet, etc., qui était du air gap via clé USB. Fait que ça, oui, c'est excellent de bloquer les clés USB, mais en même temps, c'est quoi la meilleure sécurité d'une entreprise pour s'authentifier? C'est le concept des clés USB hardware. Et moi, il n'y a personne qui a réussi à penser à ce bug-là puis à cette sécurité-là en même temps. Oui, tu es capable de faire du filtrage de ID de clé USB puis peut-être offrir ce type de clé-là. Est-ce qu'ils l'ont fait? On n'a pas de détails. Puis ce qui est dérangeant de ça, c'est que c'est quand même une société d'État. T'sais. On n'a pas d'infos, il n'y a pas de transparence, il n'y a rien. C'est juste désolant.
On a peut-être noté souvenir qu'ils utilisent la clé, pas la clé, mais l'infrastructure à clé publique avec des cartes à puce chez Hydro?
Ben, j'ai pas l'info, mais la carte à puce, c'est totalement différent, évidemment.
Mais ça temps, dépend d'un port USB pareil.
Oui, ben, le mécanisme en dépend. Là. Fait que généralement, oui. Il est plugué dedans ou il est à côté de la machine. Ça dépend. Là. Mais non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas l'info. Puis évidemment, ben, c'est par obscurité pour sécuriser nos infra-critiques.
Il ne faut plus que ça soit ça. La sécurité par l'obscurité, c'est périmé. Oubliez ça.
C'est vrai. C'est vrai. Et tant que parler d'une nouvelle lourde comme ça, on va parler d'une nouvelle un peu plus légère, qu'il y a un couple qui s'est fait expulser d'un avion à cause d'une chose de Wi-Fi non orthodoxe.
Ben oui. Écoutez, ben, ils ont beau faire des mises en garde, de pas faire les épais à l'aéroport, de pas faire les épais dans l'avion, de pas dire des niaiseries, d'être respectueux. Ben, il y a un couple de clowns qui ont été expulsés d'un avion parce qu'ils s'étaient fait un petit réseau interne, ces deux personnes-là, qui avaient été nommés détonateurs à distance. Alors,
mais oui, je pense qu'on prend une minute pour les applaudir, là, sincèrement. Là. Pas mal.
Oui, créativité, là. Yeah, numéro un.
Mais, hey, l'agent d'or a demandé des dizaines de fois à ce que les Wi-Fi soient fermés, puis ils n'en ont rien eu à faire. Rien.
Fail! Non.
Écoute, j'ai une ex-blonde qui disait que quand je mentionnais que j'avais un plan, OK, il y avait quelque chose de foireux en partant. Puis elle n'a pas tort. Mais écoutez, là, ça, c'était ça peut pas être foireux. Ils pouvaient pas savoir, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils voulaient une page d'un journal, mais en fait, ils l'ont eu. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec eux autres, là, s'ils vont avoir des répercussions. Mais bon. Alors, bravo à nos deux clowns.
Ouais, puis il faut dire, hein, tu sais, juste fumer dans un avion, là, dans les toilettes, là, c'est considéré comme un crime fédéral. Puis je pense que l'amende, c'est de quoi 5 à 20 000, une affaire incroyable. Fait que détonateur à distance doit pas mal être pire qu'une cigarette.
Oh, mais faut s'entendre aussi là, c'est, qu'il y a des professionnels qui veulent vraiment utiliser ce moyen-là pour commettre un méfait, peu importe que ce soit. Ils n'utiliseront pas un terme aussi explicite que ça, Christy. Là, voyons donc. Tout le monde le sait dans le monde. Ça, là. En plus, il était écrit en français. Il me semble qu'il était en français. Non, il était en anglais.
C'est en anglais, mais...
Ils sont
imbéciles quand même. Ils sont imbéciles.
Ben oui, tout à fait.
Whatever, quoi. Là.
Juste le fait de m'avoir répondu, là.
Tu sais, il y a beaucoup dans les aéroports des vidéos justement posées. Ne faites pas de clown, faites pas ça, collaborez, faites juste pas ça. Il y a des vidéos, là, mais il y en a plein, là, tu sais.
Il y a des pieds carrés là-dessus.
Ouais, ouais. Donc là, c'est un peu stupide, là, tu sais. C'est comme les Français qui, on l'avait vu à Québec il y a plusieurs années, qui disaient qu'il y avait une bombe dans ses bagages. C'est ce genre de... Si tu veux du trouble, tu vas aller croupir en prison, mais c'est un bon truc.
Ouais, peut-être qu'il a besoin d'un logement. Who knows?
En tout cas, mettons. Mettons, mais c'est une nouvelle qui est... C'est d'ailleurs très comique parce qu'on voit encore des niaiseries comme ça en 2020. C'est assez étonnant, ce genre de choses. Passons à la nouvelle suivante. De ce coup-ci, ben, deux nouvelles sur Huawei. Steve, qui n'est pas prêt. Puis là, c'est ça, justement, il n'y a pas... La transition, c'est sûr qu'ils disent qu'on n'a pas de transition rapide, mais entre autres, Steve est une des raisons pour qu'on n'a pas de transition rapide. Parce que des fois, il oublie d'appuyer sur les pitons.
Le multiplexage des tâches, là, c'est jamais bon. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. Révélation quand même assez choc que le chef d'état-major de la Défense a pris une position politique cette semaine en disant au gouvernement, ne prenez pas la voie de Huawei, ne permettez pas à Huawei de s'intégrer dans nos réseaux de télécommunications, dans le renouveau qui est l'intégration du 5G. Parce que... Il s'aligne avec les anciens directeurs du SCRS, dont l'actuel M. Vigneault, pour dire que Huawei, là, c'est une gang de pas fiables. Vraiment, là, bottom line, là, c'est au plus cru de la définition de son intervention, c'est ça. Et ça, c'est tout le monde qui a travaillé dans l'espionnage, le contre-espionnage, savent que c'est une compagnie, comme que ce soit Huawei, Hikvision, qui est l'installateur de caméras vidéo de surveillance, qui sont très répandues. Ils doivent répondre aux demandes du gouvernement chinois. Si jamais le gouvernement chinois demande, ils vont cogner à leur porte, on a besoin d'accéder à tes systèmes parce qu'on a besoin de valider quelque chose. Et ça s'est vu dans le passé. Plusieurs employés de Huawei se sont fait arrêter pour espionnage en ayant accès, là, présentement, à l'infrastructure. Fait que donc, le danger réside, encore une fois, dans le fait que 5G, ça ne comporte pas juste un transmetteur avec une antenne cellulaire, mais bien aujourd'hui, l'architecture va être multipliée par 10 transmetteurs pour une antenne cellulaire qu'on a actuellement pour être capable d'avoir la capacité de soutenir la densité de bebelles électroniques qui va se connecter avec ce réseau cellulaire-là. Et un fournisseur ayant mainmise sur tout ce qui est distribué, ben c'est pas d'aujourd'hui, tout le monde vérifie le code et dit non, il n'y a pas de backdoor. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est dans 5 ans, 10 ans, parce que les Chinois, eux autres, planifient toujours très long, sur une très longue période à l'avance. Et donc, la prochaine mise à jour, là, comme je dis, dans 5 ans, 10 ans, risque d'avoir peut-être une backdoor qui, à ce moment-là, va permettre à ce gouvernement-là, aux agents, d'être capables d'y entrer. Ce qui a amené encore cette semaine le gouvernement américain à générer 4 chefs d'accusation, accuser 4 officiers chinois du 54e institut de recherche sur la possibilité sur le fait qu'ils ont dérobé les 140 quelques millions de dossiers chez Equifax il y a 3 ans, passant par la vulnérabilité d'Apache Struts, alors que ça avait été patché, la majorité du monde l'avait corrigé des mois avant. Eux l'ont détecté chez Equifax, ils ont rentré, ils ont aspiré l'information. Et là, après, Equifax s'en est rendu compte et ont pu corriger le problème. Ce qui est quand même faible un peu comme action, mais en gros. Mais reste le fait que les autorités chinoises, en tout cas, ils reculeront devant rien. Et le premier objectif, c'est vraiment d'aller chercher toute propriété intellectuelle et de ramener ça à la terre sainte de la Chine pour être capable de faire du reverse engineering et de revendre ça après à coût moindre, ce qui va venir vraiment bafouer notre économie en général.
Hey, dis-moi non, Steve, je ne suis pas le spécialiste des télécoms. On pourrait-tu supposer que la technologie de Huawei pourrait camoufler un protocole d'exfiltration de données sans qu'on s'en rende compte?
Présentement, il n'y a pas rien qui indique qu'ils auraient ce genre de capacité-là, mais ce n'est pas impossible. Mais comme je dis, ça peut être rajouté par la suite. Fait qu'imagine, Vincent, je te vends là, 100 000 pièces d'équipement, puis tout est correct, ça répond aux normes, tous tes techniciens viennent vérifier ça, puis tout le monde dit que ça marche numéro un, mais je te fais des backdoors dans les prochaines révisions. Est-ce que tout ton monde va avoir le temps de faire les vérifications d'usage pour checker chaque pièce de code qui rentre, pour mettre à jour l'équipement? Et en plus, si tu mets l'équipement sur la pièce d'équipement, hey, c'est une patch urgente, mettez ça parce qu'il y a telle vulnérabilité. Tu sais, tu mets un scénario d'urgence, ça va à ce moment-là compromettre l'équipement. Ça, c'est la manière que tout le monde anticipe que ça va se passer.
Ah, les méchants chinois.
Hey.
On n'a pas fini d'en entendre parler.
Exactement.
C'est pour ça que le procès d'extradition qui a lieu à Vancouver présentement, ça va aussi faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de remous chez les gens en sécurité et en renseignement. Donc, poursuivons. Plusieurs attaques, fuites d'informations au gouvernement, Patrick?
Oui, ça n'est une intéressante. Dans le fond, on a une nouvelle loi qui devrait avoir plus de mordants au Québec pour venir soutenir là, la donnée personnelle des citoyens envers les entreprises qui l'utilisent. Là, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que si ça va avoir une bonne incidence, considérant que c'est une loi provinciale, versus est-ce que ça devrait être vraiment quelque chose au niveau fédéral, là, considérant tous les ministères de commission de l'accès à l'info, etc., qui vont gérer un peu là, ce genre de loi-là. Je ne suis pas expert exactement dans ce domaine-là. Je pense que Steve et Nick en savent un petit peu plus, mais je pense que c'est quand même un bon départ, une bonne initiative, mais il va falloir voir comment que ça va se mettre en place.
Oui, comme tu dis, Pat, parce que c'est à défaut de rien avoir, ben, c'est une excellente initiative que le Québec lance là-dedans. Et ça, on se rappellera, c'est l'effort concerté du ministre de la Justice, Lebel, le ministre des Finances, Girard, et le ministre de la Transformation numérique, Kerr. Et là, à la suite de la rencontre au mois de novembre des tous les commissaires à la vie privée provinciaux et du Canada, ben, ils ont drafté un plan pour être capable de faire justement ce genre d'initiative-là. Et au fédéral, ben, c'est encore pas clair qu'est-ce qu'ils veulent faire comme amendement. Le commissaire Terrien, Lucien Néun, qui est à... le soutien nécessaire et à ce moment-là, mettre des lois plus sévères et amender le code criminel tant qu'à y être. Mais au Québec, ils vont prendre cette initiative-là qui risque de passer, mais créer surtout un élément dissuasif supplémentaire. Parce que là, la première offense, c'est 10 000 piastres, c'est au Québec, et 20 ou 40 000, je crois, la deuxième offense, c'est du pocket change pour du monde, ça, des grosses compagnies. Alors que ce qu'a proposé Mélis Girard, surtout avec l'assistance de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, ben, ça va aller dans les millions de dollars, pas trop être coopératif. Là.
Bon, de toute apparence, il n'y a personne qui veut intervenir à cette information-là. Donc, passons à la nouvelle suivante. Steve, Emotet nous réserve des surprises. Maintenant, c'est rendu qui se propage comme le coronavirus.
Et oui, et ça risque de faire mal là-dessus, là, Nick, parce que beaucoup de réseaux sans fil, comme on sait, ben, de plus en plus, les gens se servent de réseaux sans fil, mais ils veulent garder ça simple. Donc, la façon que se propage cette distribution d'Emotet, c'est un module qui a été rajouté à l'Emotet original, qui se veut, premièrement, comme virus, d'aller faire du vol de l'information financière. Et là, il va, à ce moment-là, sur une machine infectée, commencer à sniffer, vraiment détecter tous les réseaux sans fil. Et on sait que la majorité des ordinateurs modernes ont tous une capacité sans fil. Et en détectant des réseaux sans fil, va systématiquement aller tenter de craquer le mot de passe, donc à faire un brute force attack. Brute force, ça veut dire qu'il va essayer toutes les combinaisons mathématiques possibles. Et vu qu'en WPA, le WPA, WPA2, ben, ça prend 8 caractères minimum. Et la majorité des gens gardent ça très simple. Et ils vont essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, password qui est numéro 4 mondial, etc. Donc, ça devrait être relativement facile une fois qu'il est infecté la machine. En passant, c'est des machines Windows qui infectent. Et ça se propage à l'intérieur du réseau pour après ça en infecter d'autres, évidemment, et se propager à vitam aeternam de même. C'est Vera parce que il est persistant. Mais Motel, c'est un des gros là, qui reste depuis longtemps dans le marché. Puis quand je parle dans le marché, sur Internet et tout partout, donc il infecte beaucoup. Et après coup, ça va perdurer tant que tout le monde va utiliser du sans fil. Est-ce qu'on va arrêter de faire du sans fil? Non, il faudra juste peut-être le sécuriser davantage. Donc, avec, par exemple, l'utilisation soit de WPA2 Entreprise, qui est l'utilisation d'un serveur Radius ou 802.1X, ou bien mettre 63 caractères, qui est le maximum de caractères possibles et reconnus pour un PSK, donc un pre-shared key. Sur un environnement sans fil. Personnellement, c'est ce que j'utilise, 63 caractères. C'est comme ça que je m'assure que ça soit vraiment que je migre vers 802.1X prochainement.
Ben, effectivement, c'est intéressant de voir la migration que les malveillants font avec ces genres de codes malicieux-là. On est passé d'une infection par courriel à une infection par Wi-Fi. Ça, on n'arrête pas le progrès. C'est-à-dire que chaque vecteur possible et inimaginable vont être explorés par les malveillants. Ça veut dire qu'on ne peut plus laisser ou présumer qu'ils n'utiliseront jamais un chemin défini. Ils vont toujours réussir à trouver un autre chemin. Et j'aime bien utiliser l'analogie de l'eau comme pour représenter les malveillants, parce que dès qu'ils vont trouver une craque, une fissure, ils vont s'infiltrer dedans puis ils vont rentrer. Fait que si nos sécurités ont de moindres fissures, puis s'infiltrer dedans comme n'importe quel infiltrateur pour les gens qui ont le malheur de vivre selon la situation là. Donc, enchaînons avec la nouvelle suivante. Au UK, il y a une espèce de campagne de désinformation qui a lieu un peu, qui est en train de rendre une image un peu négative d'usage d'outils de sécurité sur laquelle les personnes qui sont vues ou aperçues utiliser Kali Linux, par exemple, doivent être rapportées à la police.
Oui, c'est Troy Hunt, celui qui est derrière le site web de Have I Been Pwned, que les gens ont appris à connaître. Qui aura et on a acheté un adolescent, votre enfant, utilisant Tor, Kali Linux, des machines virtuelles, Wi-Fi Pineapple, bien, ça se peut que ça donne à faire des choses criminelles. Alors qu'on sait que c'est, un, premièrement, pour être capable de faire de la recherche et d'explorer, deux, ça peut être une capacité professionnelle qui est en arrière, parce que vous et moi, on sert de ces outils-là sur une base régulière. Ça fait-tu de nous des gens qui sont mal intentionnés et criminels? La réponse, c'est non. Fait que on ne sait pas à date qui a lancé ça, et les autorités anglaises et surtout la police de West Midlands ont dénoncé que non, c'est pas eux autres qui sont en arrière de la création de cette affiche-là, et ils sont en train d'enquêter sur comment est-ce que c'est arrivé à se diffuser, puis qui aurait eu l'intention de faire ça? C'est juste drôle, ça, en milieu février, je vois pas la raison réelle pourquoi que ça serait pas disponible pour être capable donc d'arrêter les gens de faire l'utilisation de ces produits-là.
C'est un peu malheureux de transformer des gens qui sont curieux en des gens qui sont méchants. On se retrouve un peu dans l'obscurantisme religieux qu'on a vu pendant, surtout au Moyen-Âge, où les gens qui avaient un peu plus de connaissances étaient systématiquement pointés du doigt comme quoi étant dangereux à la société. Fait qu'on est dans une espèce d'univers un peu puritaniste qui est, en tout cas, comme personne ne rend en sécurité, je trouve ça un peu agaçant parce que toute la connaissance nous permet de nous protéger et globalement, au lieu de juste tout cacher et tout faire de la sécurité par l'obscurité. Il
faut en ressortir le document des années 90, là, le mentor des hackers. Là. Je me suis oublié le nom.
Le manifesto.
Le manifesto. Ouais.
Dans le film Hackers, entre autres, là, qui cite tel quel. Là.
Oui, ça vaudrait la peine de le rappeler, puis comme ça, encore une fois, laisser savoir que un hacker ne représente pas un criminel. Puis ça, je me fais un point d'honneur dans chaque fois que j'en parle publiquement. Un hacker, c'est une personne curieuse qui veut connaître comment fonctionnent les choses et peut-être donner une nouvelle fonctionnalité à certaines affaires. C'est pas encore là le criminel. Puis est-ce qu'on dit d'un écrivain, c'est toujours, peu importe la personne qui s'adonne à faire des créations, légitime que du jour au lendemain, et s'il le fait d'une mauvaise façon, ça se trouve être le criminel du jour. C'est ça qui est l'enjeu, là. Puis je rejoins Nick, qu'est-ce que tu disais à 100%?
Je vais me donner l'exemple que quand on parle d'un hacker qui est un criminel, au lieu de dire criminel, je veux dire, ils disent hacker. je vais toujours leur lancer le concept du chasseur. Tu sais, un gars qui va chasser, là, tu l'appelles-tu un chasseur criminel ou tu l'appelles un tueur? Tu sais, je veux dire, tu verras jamais ça dans les nouvelles. Nous avons un chasseur criminel qui a tiré sur quelqu'un. Mais non, il a tiré quelqu'un, that's it, là.
Ou on appelle ça un braconnier.
Ouais, exact. Il y a le terme qui
va tirer sur quelqu'un, par exemple.
Ouais.
Mais ça, c'est un chasseur de primes.
Ouais, mais c'est très étrange de ramener ce genre de notion-là, comme quoi l'intention est implicite à l'usage d'un outil. Il faut rappeler que dans le code criminel canadien, il faut deux éléments primordiaux pour réussir à condamner quelqu'un. C'est l'intention et le motif.
Ouais.
Si la personne l'a pensé criminelle, fait que si on utilise l'outil, on n'a pas l'intention criminelle, le mens rea. Donc, dès lors, on n'est pas... De présumer que la personne a une intention sur l'usage, parce qu'elle a l'usage d'un outil, c'est un très dangereux rapprochement qu'on fait. Là.
Ouais, puis c'est pour ça qu'on a parti là, avec FES, on a fait beaucoup de recherches sur le lockpicking, justement, considérant ces deux points-là. Puis tu as le droit d'avoir des outils de lockpicking, justement, parce que l'intention n'est pas criminelle, puis ton objectif n'est pas de rentrer dans un bâtiment qui ne t'appartient pas ou une serrure qui ne t'appartient pas, etc. OK. On en parle souvent, mais ça a l'air que le message disparaît de temps en temps.
Ce soleil malheureux. Donc, on va clore cet épisode-là avec cette nouvelle-là. Comme toujours, Steve est prolifique, donc allez voir dans le show notes. Tout le travail de Steve est consigné, c'est important. Et il y a beaucoup d'autres nouvelles très intéressantes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le temps de le traiter live que ce ne sont pas moins importantes. Donc, allez voir. Sinon, messieurs, bonne semaine. Un petit mot pour terminer.
S'il faut porter des masques contre le coronavirus, je ne sais pas ce qu'il va falloir porter contre l'hémothèque qui se propage un peu partout. Donc, soyez prudents et protégez-vous, les amis.
Yes. Mais bonne semaine à tous. Puis au pire, rajoutez un peu de lime dans votre corona.
Ouais, cessez d'être gentil. Et voilà. Essayez d'être poli, soyez vrai.
Fly like the Beatles. So for now, just chillax and enjoy the show. I'ma swing it in the snow.